Podcast La Première.
Et à midi 4, il est temps de vous retrouver. Bertrand Hen, débat première, c'est parti.
C'est parti et c'est un plaisir de vous retrouver à cette heure, au déjeuner plutôt qu'au petit déjeuner. Et dans cette nouvelle émission, débat première, le nom dit bien ce qu'il veut dire. On va mettre l'actualité en débat tous les jours. C'est un nouveau forum de midi, si on veut, avec des invités bien sûr, et surtout vous qui allez donner de la voix, on l'espère. Et on va ensemble tenter de trouver des solutions à des problèmes, trouver des réponses aussi à des questions qui se posent dans la société. Et aujourd'hui, nous vous posons notamment cette question, pourquoi pas un aéroport national en Wallonie, puisqu'aujourd'hui, un comité de concertation qui a l'air très chahuté, on l'entend, se penche encore une fois sur ce dossier, on peut dire pourri, de la politique belge. Les ministres régionaux et fédéraux se réunissent pour évoquer cette dernière péripétie, vous le savez sans doute, la tolérance zéro de la région bruxelloise par rapport à ces normes de bruit, ce qui pose beaucoup de problèmes à Zaventem. Ce dossier est bloqué, donc pourquoi pas des solutions un peu plus radical, on délocalise les vols ou un nouvel aéroport. Vous nous dites ce que vous en pensez, on en parle à 12h30.
Intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter et par téléphone au 02 737 37 07.
Mais avant, on abordera les sujets du jour dans cette émission, ceux dont tout le monde parle, ou presque, qui font la une de vos journaux, de vos sites internet, ceux que vous discutez peut-être sur les réseaux sociaux. Et cette question s'impose selon nous, faut-il à tout prix faire barrage au Front National en France en votant Emmanuel Macron. Et la question s'est invitée chez nous très rapidement, beaucoup de partis s'en sont emparés, sont exprimés. C'est donc notre premier sujet du jour.
Midi 13h,
débat première,
Bertrand Hen.
Et voilà, dans cette émission, on va commencer par un moment d'échange de vues, d'échange de regards sur l'actualité, d'idées, d'opinions. Et on espère évidemment que ça va permettre de vous éclairer, d'avoir l'esprit clair, comme le dit si bien notre nouveau slogan. Et je vous le disais ce matin, selon nous, la question qui se pose, c'est faut-il à tout prix faire barrage au Front National en votant Emmanuel Macron? La question se pose en France et de plus en plus par procuration, puisqu'on semble vivre la vie politique par procuration en Belgique. Et pour n'en parler avec nous, deux invités, Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef du quotidien Le Soir. Bonjour.
Bonjour Bertrand.
Et Alain Gerlache, journaliste RTBF.
Bonjour Bertrand.
On est très content de vous avoir tous les deux ensemble. Vous êtes un peu les parrains de cette émission.
C'est un honneur.
Comme ça. Ah ben, pour nous
un
aussi,
défi.
Pour nous aussi, toute l'équipe de Débat Première. Et pour commencer, je vous propose d'écouter ou de réécouter le Premier ministre ce matin interrogé par Thomas Gadisset sur cette question d'un soutien à Emmanuel Macron. Eh bien, il n'a pas voulu lui répondre. On écoute.
Je vous répondrai très simplement que mon rôle, c'était effectivement de féliciter le candidat qui arrive en tête au premier tour et de souligner des convergences de vue pour le projet européen.
Vous ne voulez pas répondre à cette question ?
Monsieur Gadisieux, je n'accepterai pas non plus qu'un Premier ministre français ou néerlandais fasse des commentaires sur la politique intérieure en Belgique.
Béatrice, est-ce qu'il a eu raison de ne pas répondre ?
Ah, je crois d'abord qu'il a dû maudire Thomas Gadisseux, lui poser la question. Ensuite, Denis Ducarme d'avoir pris position la veille quand il n'était pas question d'avoir un avis sur ce que la NVA pensait de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Et je pense que globalement, il a dû se dire il avait une réponse pratique et être ravi qu'Emmanuel Macron est arrivé en pole position au premier tour. Ça lui permettait de dire qu'il avait félicité le premier. Alors, si c'était Marine Le Pen, je me demande s'il aurait félicité le premier également. Donc, je pense que le Premier ministre Charles Michel reste avec un gros problème, un gros souci, dès lors qu'il faut normer moralement certaines prises de position de la NVA.
Mais est-ce que c'est normal qu'un chef d'État, parce que c'est ça sa défense, il dit c'est normal, un chef d'État n'a pas à prendre position dans le débat des États autres, en Europe ou dans le monde.
Ça peut être une position qui est tout à fait respectable, simplement ici, je pense que ce n'est pas une position comme une autre. C'est par rapport à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, il peut juger que ce n'est pas tactiquement opportun, que ça n'aide pas au débat, mais on a connu par exemple un certain Louis Michel qui avait des positions très fortes sur l'Autriche, sur l'extrême droite, il n'était pas Premier ministre,
Et l'extrême droite était au pouvoir.
Oui, absolument. Et donc, je pense qu'ici, il était très embarrassé par la question. Je ne suis pas sûre, dans d'autres circonstances, il aurait fait la même réponse. Donc, je ne crois pas que sa position soit de principe. Elle est juste, de sauf qu'il peut, dans l'instant, de ne pas devoir se prononcer.
Alain, vous pensez aussi que s'il n'a pas répondu, c'est surtout parce que ça l'ennuyait quelque part de devoir se positionner et d'être en porte-à-faux par rapport à la NVA?
Formellement, on peut justifier son point de vue. Je suis Premier ministre, je ne commande pas ce qui se passe dans un autre pays, je n'accepterai pas que d'autres le fassent. Mais bon, on sait bien qu'il y a autre chose, comme ça vient d'être dit par Béatrice. Vous savez, on est dans le symbolique, hein, parce que, dans le fond, je ne suis pas sûr que les prises de position des différents partis belges, et même de notre Premier ministre, puissent avoir une influence
bien sûr
sur
que
le
non.
scrutin français.
Mais
hein.
ça dit quelque chose
on
de ce qui se passe chez
nous. On est dans le symbolique,
ouais.
mais on est aussi, évidemment, dans l'arrière-pensée. Mmh. C'est d'ailleurs ça qui caractérise le jeu politique, c'est qu'on est toujours à la fois dans la conviction et aussi dans l'arrière-pensée, et ça vaut pour tous les partis qui se sont exprimés sur cette affaire.
Alors,
on va sûrement en reparler. Fondamentalement, il est un peu coincé par le fait que depuis dimanche soir, le MR, un peu partout sur les réseaux sociaux, essaye de récupérer la figure de Macron.
Hein. C'est une, il n'y a pas que lui d'ailleurs, enfin, il y a une vraie offensive.
Voilà, hein. Moderniste, il est jeune, etc. Donc
il
ça
est maire, en fait, hein.
un peu le point de vue que le MR peut donner dans son alliance avec la NVA. Mais évidemment, il y a eu cette prise de position quand même assez téméraire de Denis Ducarme qui dit, qui pointe le PTB, qui refuse.
Donc il a refusé le PTB et Raoul Edebeau de s'aligner pour Macron pour éviter de faire, de porter Marine
Le
Pen.
Oui, il a dit, nous assistons à une forme de complicité entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Si tous les partis agissent de la sorte, ce sera le chaos.
Et quelques temps
c'est la position
après,
de Mélenchon en France. Hein,
et quelques
c'est calqué dessus.
On va sûrement en reparler, mais quelques minutes après, il y a le chef de groupe de la NVA au Parlement fédéral, Peter De Rover, qui se prononce pour une sorte de nini, etc. Et donc dément complètement.
Mais comment vous comprenez sa voix, Alain, que à la limite que le PTB dise, ou comme Mélenchon d'ailleurs, moi je ne veux pas me prononcer pour ce qu'il considère comme un libéral plutôt qu'un autre. Mais pourquoi la NVA ne le dit pas ? Parce que ce serait simple, la NVA libérale.
Il y a deux raisons. D'abord, il y a à la NVA une très grande réticence par rapport à l'Europe. Hein, il faut le savoir. Hein, il y a un certain nombre de penseurs, notamment néerlandais, qui sont très anti-européens et qui ont aussi une influence sur les cadres de la NVA. Il y a une certaine proximité, on le sait, entre Bardewever et les conservateurs britanniques, qui ne sont pas nécessairement les plus europhiles. Et plus globalement, il y a aussi le fait que, et ça vaut pour tout le monde, ça vaut aussi pour les syndicats français, ils tiennent compte aussi de la partie de leur électorat
qui voterait
ou qui est sensible aux thèses de Marine Le Pen, et ça vaut pour tous les partis et pour tous les syndicats.
Oui, je rappelle que il y a une élection qui se joue bientôt chez nous. Enfin, elle va commencer à agiter quand même les rangs politiques. Et en fait, rappelez-vous que la NVA veut récupérer des voix au Vlaams Belang, qu'elle avait déjà pris, mais qui sont retournés vers le Vlaams Belang. Donc, diaboliser Marine Le Pen et dire, voilà, c'est l'horreur, et valoriser un jeune homme qui paraît plus quand même centre-droit et qui ne défend pas le nationalisme, c'est embêtant par rapport à ce électorat qu'ils ne veulent pas courroucer. Et qui est un électorat belge, c'est comme disait Alain, ce qui est un petit peu dommage là-dedans, c'est que la notion des principes, en fait, est-on pour ou contre l'extrême droite, quelles sont finalement les valeurs qu'on défend, sont perverties par des jeux de positionnement politique qui fait qu'on ne sait plus finalement quelles valeurs on défend vraiment et on se cache un peu des arbitrages tactiques. Ça, c'est une première chose.
Ouais.
Il faut quand même reconnaître que aujourd'hui, il y a un débat très intéressant qui est de dire, mais est-ce qu'il faut diaboliser l'extrême droite ? Est-ce qu'il faut dire tous contre Le Pen ? Est-ce que c'est vraiment efficace ?
On voit bien que par rapport à 2002, le discours a changé, l'atmosphère a changé.
L'atmosphère a changé monde, hein. Parce qu'il y a des gens qui ont une proximité plus grande avec une forme de racisme soft, entre guillemets, ou en fait avec la difficulté ou une proximité avec des thèses de l'extrême droite et de Marine Le Pen qui elle-même a un peu adouci sa manière de le verbaliser. Mais il y a aussi une série de gens qui se disent, est-ce que c'est efficace ? Et je prendrais par exemple Onfray, le philosophe français, qui sur un blog aujourd'hui disait il y a une perversion entre ceux qui tapent sur elle, Marine Le Pen, et par ce qui la rend possible, c'est-à-dire le libéralisme et le capitalisme. Il dit en fait, lui, finalement, on ferait beaucoup mieux de corriger les travers qui font qu'elle existe que de taper sur elle. Et il a l'impression qu'il y a une différence. Et il y a un malaise dans les positionnements, même chez nous, si on en discute, on se dit dans le fond, est-ce qu'on va dire que Macron n'est pas performant tout à fait ? Est-ce qu'il a raté son dimanche ? Parce que là, on le défavorise. Est-ce qu'au contraire, on dit que Marine Le Pen est mauvaise et pourrit un peu le débat et qu'elle n'est pas légitime parce qu'elle n'est pas démocrate ? Et dès lors, renforcer ceux qui se disent, mais c'est toujours la même chose, il y a ceux qui diabolisent, alors que nous, on trouve qu'elle prend notre défense. Oui. C'est compliqué.
Alain,
un bémol.
Vous n'avez pas l'air d'accord là-dessus.
Un bémol. Je pense que la presse doit dire les choses telles qu'elles sont. Et par exemple, aujourd'hui, Libé dit, à mon avis, à juste titre, redescend Manu. Hein, c'est une allusion.
Oui, c'est une.
C'est une allusion aux inconnus.
Mais tiens, je vous interromps.
Oui.
Parce qu'on a retrouvé le son.
Très bien.
Voilà. Manu, tu descends ? Et pourquoi faire ? Je ne sais pas, moi. Descends. Pourquoi faire ? Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends.
Pourquoi faire ?
Voilà, sketch célèbre,
Des Inconnus. Qui date de
très bonne une de nos confrères de Libé.
C'est culte, ça reste d'actualité. Et c'est vrai que Macron a raté sa soirée de premier tour. Hein, son discours décousu, trop long, arrogant, triomphaliste, son resto.
Ah oui, vous n'avez pas du tout aimé.
Voilà, alors, qui rappelle, il pouvait quand même savoir que ça allait rappeler le Fouquet's. Et en plus, Sarko, c'était au deuxième tour. Il avait vraiment gagné. En plus, il est maintenant obligé de se justifier et il le fait avec une certaine irritation. Bref, le risque pour lui...
Oui, ça rappelle un peu le Fillon de « et alors ?»
Voilà, et ça, le risque pour lui, c'est de paraître immature, pas contrôlé. Ça risque de lui coller au doigt comme le sparadrap du capitaine Haddock. Mais ça, il faut quand même le dire. On ne va pas cacher ça, même si ça le déforce. Cela dit... au-delà des jeux politiques, et c'est vrai qu'on pourrait aussi parler de la façon dont le PTB, par exemple, colle à Mélenchon, alors que le PTB ne s'est pas du tout engagé à consulter ses membres. C'est un parti autonome, ils pourraient quand même le dire. Mais pourquoi ils le font ? Mais pour essayer, c'est dans leur stratégie d'opposition.
Surfer sur le sillage.
Au PS, soyons clairs. Ouais. Voilà, c'est assez évident. Mais derrière tout ça, derrière tous ces jeux politiques, et Dieu sait si on vient de consacrer un certain temps à essayer de les décoder, si je puis dire, il y a le vrai fond du débat qui est la fracture sociologique.
Oui.
L'électorat
qui est clair
de Marine
et
Le Pen,
France.
Mais c'est ça qui est la véritable inquiétude. L'électorat de Marine Le Pen, ce sont grosso modo, évidemment il y a toujours des exceptions, mais des victimes de la mondialisation.
Oui.
L'électorat de Macron, ce sont plutôt ceux qui en ont bénéficié. En termes de marketing, les CSP moins, catégorie socio-professionnelle, inférieure, catégorie socio-professionnelle supérieure.
Les revenus en dessous de 3 000 euros, 37% pour Marine Le Pen.
Et l'enjeu pour les partis qui subitement se retrouvent PS et MR pour soutenir Macron, c'est qu'ils n'ont pas de réponse à donner à ces gens qui ont voté pour Marine Le Pen. Quelle est la réponse de la social-démocratie actuellement à ceux qui sont les paumés du système ?
Van Kuykenborn disait, Vincent Van Kuykenborn, bourgmestre VLD, on voit ce qui se passe quand il y a trop de pauvreté, notamment dans le nord de la France, eh bien les gens votent FN. Mm-hmm. Et lui disait donc la réponse c'est le libéralisme, parce que c'est lui qui apporte plus de richesse.
Mais alors il faut qu'il le convainque aussi, parce que le MR ne parvient pas non plus à convaincre que l'Europe, le libre-échange et le marché, ça crée du bien social.
Donc la difficulté, il y a une vraie difficulté finalement à s'adresser à ces publics qui pensent que la globalisation est mauvaise, que l'Europe dès lors ne fait que d'apporter de l'austérité, et des gens qui pensent aussi que la digitalisation, toute la modernité, n'est pas positive pour ceux qui seraient largués par le fait qu'ils n'ont pas les capacités, qu'ils n'y ont pas accès, etc. Mais c'est bien ça le défi de Macron. Et c'est bien pour ça il doit aujourd'hui, et il aurait dû les préparer. S'il veut ouvrir son spectre, il doit rassurer, c'est-à-dire qu'il doit être l'homme de... Le futur n'est pas nécessairement négatif, mais il doit enrober, c'est ce que disait Thomas Piketty dans une chronique, je pense que c'était dans l'Écho qui était publiée samedi, où à un moment donné il a dit, quel que soit le gagnant, que ce soit l'un ou l'autre, à part Marine Le Pen, il faut que ce gagnant puisse apporter aussi du premier tour des réponses positives, optimistes, et donner le sentiment qu'il va corriger en partie certains traités européens. C'est ce qu'on entend sur Magnette aujourd'hui avec la notion du pacte d'investissement. Oui. C'est le fait qu'à un moment donné, on ne fasse pas des choses d'investissement à la marge, mais qu'on fasse de vrais gestes qui prouvent aux gens qu'à un moment donné, on les prend en charge. C'est là que l'attitude de Macron dimanche soir est juste suicidaire, parce qu'il devait en faire de dimanche soir un premier pas de travail dans la conquête de cet électorat-là. Et il a fait une sorte de masturbation pour ses propres troupes.
Masturbation, le mot est lâché. Collectif. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer d'autres faits marquants de l'actualité, dont notamment ce discours poignant du compagnon de Xavier Jugler. C'est ce policier assassiné sur les Champs-Élysées. On reviendra aussi notamment sur la démission de Stéphane Moreau du Parti Socialiste.
Intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter et par téléphone au 02 737 37 07.
Débat Première, midi 13h. Midi 13h, Débat Première.
Et on continue cet échange de vues, de regards sur l'actualité. On débat avec Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef du Soir, et Alain Gerlache, que vous connaissez bien, journaliste ici à la RTBF. Et Alain, vous vouliez nous parler d'un hommage funèbre qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui.
Oui, c'était hier, l'hommage national à ce policier qui a été assassiné
sur les Champs-Élysées.
Sur les Champs-Élysées,
Xavier Jugler.
Dimanche soir, on peut dire assassiné parce que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas prévisible, visait vraiment la police, etc. Certains disent meurtre, je ne vais pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est une victime qui est identifiée par rapport à son rôle de policier.
Bien sûr.
Ce n'était pas une victime aux victimes au hasard. Il y a eu, comme souvent, un discours d'un proche, en l'occurrence ici, son compagnon. C'est un merveilleux discours. Hein. Il y a à la fois beaucoup d'amour, de dignité et d'humanisme.
Eh ben, je vous propose
mais au-delà, je trouve aussi que cet événement fait bouger un certain nombre de lignes, brise un certain nombre de stéréotypes, et je propose qu'on en parle après.
D'accord, on va parler de ça, mais je vous propose de l'écouter. C'est donc Étienne Cardilès, je crois que je prononce bien, le compagnon de Xavier Jugler, hier à l'hommage national rendu donc à son compagnon policier.
Je suis rentré le soir sans toi, avec une douleur extrême et profonde, qui s'apaisera peut-être un jour, je l'ignore. Cette douleur m'a donné le sentiment d'être plus proche que jamais de tes camarades qui souffrent, comme toi, silencieusement. Comme moi, silencieusement. Et pour ce qui me concerne, je souffre sans haine. J'emprunte cette formule à Antoine Léris, dont l'immense sagesse face à la douleur